صدقني
هيدا بلدي
موتي موتي
pas complètement d'ici ni vraiment de là-bas
موتي موتي
le son d'un autre pays mais l'accent de chez toi
موتي 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 موتي.
Alors, on vient d'entendre « Moitié-moitié », c'est le plus récent titre de mon invité, Wassim. C'est un morceau où les sonorités orientales rencontrent la chanson francophone pour raconter une quête d'identité. Alors, Wassim est auteur, compositeur, interprète, c'est aussi une personnalité de la radio à Gatineau, un citoyen très engagé. Bonjour Wassim, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Wassim, ton tout premier album, c'était « Portrait ». Je suis allé en écouter un bout ce week-end. C'était, il me semble, marqué par le deuil périnatal, si je ne me trompe pas. Ce nouveau projet, « Moitié-moitié », tu sembles passer de l'intime vers une réflexion sociale. Sur tes origines libanaises et québécoises. Alors, pourquoi c'était le moment de faire ça maintenant?
Bien, en fait, oui, tout est parti de Portrait et de ce deuil périnatal qu'on a vécu qui m'a un peu révélé à la chanson. Puis avec l'évolution du projet, puis surtout avec la situation actuelle, je vais dire que je sens une espèce de recul sur le vivre ensemble. Mm-hmm. Puis lorsqu'on révèle son identité par Portrait, qui était le premier album, bien, dans mon identité, il y a cette dualité identitaire. Puis cette dualité identitaire, elle est présente chez essentiellement tout le monde, hein, parce que même si on est de souche, on va le dire comme ça, même si j'aime pas ce terme.
Moi non plus.
Bon, ben c'est ça, mais on a quand même deux identités, mm-hmm. Tu sais, que ça soit de la mère, du père, des deux papas, des deux mamans, peu importe. Donc c'était important pour moi de mettre ça, de l'encapsuler en musique, puis de parler des différentes dualités identitaires qu'on a et du vivre ensemble, nécessairement.
Vivre ensemble, qui est un mot fourre-tout, parfois, tu le vois comment, ce vivre ensemble?
Bien, je le vois vraiment sur une capacité à communiquer entre les différents groupes, entre les différentes personnes, entre les différentes idées. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve davantage dans des chambres d'écho.
Oui.
Donc on se parle, mais entre convaincus.
Oui, tout à fait.
Ou en tout cas de manière assez homogène dans nos discours. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus de pont. Donc, le vivre ensemble, pour moi, c'est vraiment sur la communication. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que j'ai choisi la musique comme médium, parce que c'est un super lieu de rassemblement, la musique, où c'est rare, là, maintenant, qu'on se retrouve, que ce soit au théâtre, que ce soit en musique, qu'on soit capable de s'asseoir tous ensemble devant une pièce, puis d'être à l'écoute, finalement.
J'ai lu que ta musique, on entend l'influence de Férouz,
oui.
Et autant que celle de David Bélanger. C'est vrai?
Oui, de Daniel Bélanger,
oui.
Et de Férouz. Donc, c'est très vrai parce que moi, je suis né dans Férouz, ben avec Férouz, qui est cette diva libanaise.
Oui.
Je ne sais pas si vous la connaissez, oui.
J'ai fait une petite recherche, je ne la connaissais pas, mais j'ai fait une petite recherche,
okay.
Oui.
Ben, elle est très, très, très populaire dans le monde arabe, mm-hmm. Toujours vivante aujourd'hui, mais évidemment, elle ne fait plus de spectacle. C'est un peu, disons, le mélange de Céline Dion puis de Ginette Renaud pour nous dans le monde,
oui.
Arabe, donc cette union-là. Mais toute mon adolescence, Loco Locas, Cowboy Fringant, Daniel Bélanger, ben, je me suis retrouvé à transposer ça dans ma musique, ou en tout cas dans les paroles, parce que je suis francophone d'abord. Fait que je réfléchis en français, ma poésie sort en français, mais mes sentiments, bizarrement, moindrement, des fois, j'entends une chanson de Férouz tout de suite, la larme à l'œil. Donc, j'ai essayé de mélanger les deux, du moins.
Et comment tu le fais sans qu'une n'étouffe l'autre?
En fait, c'est sûr que le côté occidental puis mon fait français étouffe un peu le Férouz qui est en moi, mais les traces sont quand même là. Ça serait faux de dire, tu sais, que j'ai réussi vraiment à fusionner les deux, même que j'ai réussi à mettre un peu de paroles en arabe dans mes chansons. Ça aussi, c'est quand même, je veux dire, risqué dans l'industrie là, en ce moment au Québec, où on essaie de défendre autant que possible notre langue française, ben, d'arriver avec des vers en arabe, ça a été un peu risqué, mais je l'assume amplement.
De toute façon, on l'a vu hier au ce qu'on appelle au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Ça s'est passé en espagnol et on a tous vécu un party rassembleur.
Exactement. Je pense que c'était vraiment ça son objectif aussi à Bad Bunny,
Bad Bunny, oui.
De vraiment rassembler tout le monde, même si la langue chantée, c'était l'espagnol. Puis ça, c'est la preuve que la musique dépasse les frontières.
Oui.
Bad Bunny en est vraiment l'exemple parfait.
Je reviens à toi qui es citoyen engagé, hein, parce que en plus de ta carrière musicale, tu présides le CA de l'Impératif français depuis 2025. Comment concilies-tu ta vision inclusive de l'immigration avec une protection rigoureuse de la langue française?
Oui, bien, en fait, c'est que le français, c'est vraiment le principal médium d'intégration. C'est-à-dire que ça nous donne une langue commune, ça nous donne une unicité. Puis à partir du moment où on s'ouvre aux autres langues, parce que moi, je dis souvent dans mes spectacles, c'est le même combat. Mon envie de protéger le français puis mon désir de partager la langue arabe, en fait, elles prennent racine exactement dans la même valeur qui est celle de partager la culture puis de... Bon, ici, ça donne qu'on a une colonne vertébrale qui est le fait français. Donc après, au travail, dans nos communications, je dois dire plutôt formelles, ben, on utilise la langue française. Sauf que, en bout de ligne, pour moi, lorsqu'on accueille quelqu'un, ma fierté d'être Libanais, ben, elle a vraiment nourri cette fierté d'être francophone et québécois. Donc, c'est comme ça que je marie les deux, plutôt que, tu sais, de s'étouffer un peu en dessous des algorithmes ou en dessous de toute la culture anglophone, tu sais, qui est le global, finalement.
Oui, tout à fait. Pour toi, un Québécois de deuxième génération, est-ce que la langue française, c'est vraiment, comme tu dis, ça a été ton vecteur de ton sentiment d'appartenance ici?
Vraiment. Moi, je me rappelle, mes parents m'ont rapidement dit qu'ils ont voulu nous apprendre d'abord le français à mon frère et moi pour être sûr qu'on était intégrés le plus rapidement possible. Puis quand on parle d'intégration, on ne parle pas d'assimilation.
Tout à fait.
On parle de capacité à aller s'impliquer dans l'équipe de soccer, à aller s'impliquer. Tu sais, moi, ça a toujours fait partie. J'étais président de l'école primaire, secondaire. J'étais dans des clubs environnementaux, environnementalistes. Donc, ça, le fait français m'a vraiment aidé à m'impliquer dans tout ce que j'avais envie de faire, finalement, dans ma communauté, coacher, etc. Donc oui, c'est sûr et certain que c'était le meilleur outil pour m'impliquer dans ma communauté, parce que c'est ça l'intégration. Mm-hmm. C'est juste avoir quelqu'un sur un territoire qui s'implique dans sa communauté par le travail, par les engagements, le sport, les loisirs, la culture.
Et ça défait aussi ces espèces d'idées qui circulent sur les réseaux sociaux, qui parfois assimilent toutes les personnes arabes à des musulmans fondamentalistes, dangereux. Et il faut défaire ces préjugés-là.
Il faut absolument défaire ces préjugés-là. Puis on oublie que la majorité des gens qui sont ici n'attendent que ça, de pouvoir s'impliquer, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Puis nous, on prend ces quelques exemples, souvent, en fait, qu'on vit même pas ici, sur notre territoire. Hein. On prend des exemples qui se produisent ailleurs dans le monde, puis on vient dire, hey, attention, ça s'en vient. Mais ça s'en vient pas si on tend la main à l'autre, puis qu'on a, par exemple, moi, je donne souvent cette idée-là de coupons culturels où on invite les gens à aller au théâtre, à aller voir des shows de musique gratuitement à leur arrivée pour qu'ils voient un peu de quel bois on chauffe. Même, je dirais, d'aller découvrir le nord du Québec, le bas du fleuve, bon, etc. Ça devient fou un peu, mais...
pourquoi pas?
Exactement.
On peut même aussi aller voir les filles fatouches ici à Montréal, puis découvrir la bonne bouffe libanaise.
Exactement.
Bon, là, ça aussi, la nourriture, c'est un autre vecteur de vivre ensemble.
Notre plus grande fierté.
Tu es aussi chroniqueur à l'émission Les Malins, ici, Ottawa-Gatineau. Quel regard portes-tu sur l'évolution du dialogue culturel dans la région de la capitale nationale?
C'est un très, très grand pôle d'accueil, hein, le Ottawa-Gatineau, autant parce qu'on est bilingue. Déjà, il y a cette dualité anglo-franco en Outaouais. Puis évidemment, maintenant, on accueille aussi plusieurs communautés culturelles. Pour moi, c'est étant donné que c'est un gros pôle d'emploi, bien, c'est un super bel incubateur d'intégration, la capitale nationale. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Moi, à chaque fois dans mes chroniques, il y a beaucoup de mes origines, il y a beaucoup de cette histoire immigrante, parce que je parle de la deuxième génération comme étant un peu le cul entre deux chaises, là, comme on dit, si je peux utiliser l'expression. Bien, j'en suis l'exemple même, en fait, que la région d'Ottawa-Gatineau m'a permis de m'ouvrir sur le monde, mais aussi de voir comment on peut... s'enraciner dans le fait français du côté québécois dans le cas qui nous concerne, mais il y a des belles communautés francophones en Ontario qu'on oublie, nous, comme Québécois, mais le Ottawa-Gatineau à Radio-Canada couvre ces communautés-là, puis nous, ça fait en sorte... Hey, c'est vrai, tu sais, à Orléans, à Vanier, il y a des belles communautés franco-canadiennes même en général.
Tout à fait, tout à fait. Ce premier extrait, donc, annonce un album complet.
Oui.
C'est à l'automne 2026.
Exactement.
À quoi on doit s'attendre?
On doit s'attendre à d'autres... En fait, c'est tout un parcours d'immigrant. Il y a des chansons vraiment sur des membres de ma famille, carrément. Puis, tu sais, souvent, on dit plus que c'est personnel, plus que c'est universel. Ben, ça va être le cas dans cet album-là. Je pense, par exemple, à une histoire d'Alzheimer culturel où je constate que ma grand-maman, qui maintenant qui a dépassé les 90 ans, fait de l'Alzheimer en même temps que moi. J'oublie mes racines. Mm. Puis c'est, tu sais, ça parle d'une histoire d'immigration d'une dame qui a quand même immigré à 65 ans, 60, tu sais, fin cinquantaine. C'est difficile de quitter son pays. C'est bon, même chose pour une histoire sur le lien avec mes parents. Donc, on va continuer à avoir cette rencontre de pop oriental où on est dans des cadres très, très occidentaux, mais où on entend puis on sent les influences de la musique orientale et libanaise.
Je sais que tu vas partir en tournée. J'ai une dernière question parce que ça m'interpelle. La langue arabe, tu la parles? Est-ce que tes enfants vont la parler aussi?
Ça, quand je parle d'Alzheimer culturel, c'est ce que je dis. Mes parents parlent et écrivent l'arabe. Mmh. Je le parle. Mes enfants le comprennent. J'ai hâte de voir la suite.
Alors, Wassim, je répète donc que le single Moitié-Moitié est disponible dès maintenant sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Puis on pourra suivre la sortie de l'album à l'automne.
À l'automne, exactement.
Et il y aura une tournée, donc on a bien hâte de te suivre. Merci beaucoup d'être venu à l'émission.
Merci à vous. Bonne journée.